Le journal, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La position de la France face à la Russie, il en a été beaucoup question hier soir, pendant le premier débat des têtes de liste françaises aux élections européennes, puis lors d'un entretien télévisé d'Emmanuel Macron. Nous y reviendrons largement dans ce journal.
Nous irons en Russie également, où l'élection présidentielle commence aujourd'hui jusqu'à dimanche. L'opposition est forcée d'imaginer des opérations créatives pour s'exprimer.
Et puis nous reviendrons sur 13 ans de guerre en Syrie. Le conflit déchire le pays, la population est exsangue et les médias n'en parlent presque plus. Après ce journal, votre question du jour, Marguerite Catan.
Peut-on se fier à l'hypnose ?
Mais d'abord, arrêtons-nous sur l'anniversaire d'une loi qui a causé bien des crispations il y a 20 ans. Le 15 mars 2004, il devenait interdit de porter à l'école des signes religieux ostentatoires après des années de déchirement de l'opinion sur la question, cristallisée autour du port du voile pour les jeunes filles. 20 ans plus tard, la loi a fait son effet. Le port des tenues et des signes religieux est en baisse dans les établissements scolaires. En revanche, les atteintes à la laïcité de façon plus générale connaissent une forte hausse, et notamment la contestation de certains enseignements. Hakim Kasmi a pu assister dans l'académie de Nice au rappel à la loi d'une mère de famille qui refuse que ses enfants jouent une pièce de théâtre pour des raisons religieuses. C'est la première fois qu'un journaliste est autorisé à assister à ce genre de rappel à la loi. C'est donc un reportage d'Hakim Kasmi.
Vous rappelez le compte...
Ce matin-là, la parent d'élève qui est convoquée pour un rappel à la loi dans les locaux de la direction départementale de l'éducation nationale refuse que ses deux enfants scolarisés en section théâtre dans un collège de l'académie de Nice jouent notamment le rôle de l'ange Gabriel, ce qu'elle considère comme une atteinte à la religion catholique. Une décision qui constitue pourtant une atteinte grave à la laïcité, d'autant que ce texte a été validé par l'inspection académique.
Écoutez, je pense que je serai claire en vous disant que lorsque la loi de l'homme et la loi de Dieu s'opposent, nous sommes très respectueux de la loi de l'homme, mais la loi de Dieu prévaudra sur la loi de l'homme.
Alors, madame, ce que vous venez de dire, c'est justement une remise en cause de la laïcité. Donc nous ne pouvons pas entendre ça et nous serons tenus de réagir et d'agir en fonction de cette lecture que vous faites de la laïcité.
La loi de Dieu, c'est la loi de l'homme.
Des propos qui risquent d'aggraver le dossier de cette mère de famille et de ses enfants, comme nous l'explique Anne Kierdola, la directrice générale adjointe de la direction départementale de l'éducation nationale.
Si elle ne le comprend pas, effectivement, il y a une sanction qui est prévue, à la fois pour les élèves, pour qu'ils comprennent que la laïcité, elle est pour tout le monde. Et puis aussi, ce qui nous a préoccupés, c'est de savoir si on n'allait pas vers une dérive sectaire. Et donc, du coup, là, on a aussi un processus, puisqu'on peut faire une information préoccupante, alerter nos partenaires, qui sont aussi la protection de l'enfance, les parquets avec les procureurs, pour que les choses puissent se résoudre.
Pour autant, malgré l'ensemble des dispositifs mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, comme par exemple les équipes Valeurs de la République, les atteintes à la laïcité connaissent une hausse inquiétante ces derniers mois. Un repli identitaire qui inquiète Grégory Gilou, le principal du collège, où sont scolarisés les deux élèves qui refusent de jouer une partie de la pièce de théâtre.
On se sent démuni parce que malgré tous les temps de dialogue qu'on consacre à ces familles et à ces situations, on se rend compte que parfois ça n'évolue pas favorablement parce que ce sont généralement des parents qui sont jusqu'au boutistes et ils croient en certaines choses et veulent aller jusqu'au bout et ils sont prêts à défier l'établissement mais d'une manière plus générale l'institution scolaire et l'école de la République.
Pour autant, le chef d'établissement tient à nous préciser que même si les atteintes à la laïcité sont en hausse, dans la majorité des cas, elles arrivent à être réglées dans l'établissement par un dialogue avec les élèves et leurs parents sans devoir passer par un rappel à la loi.
Hakim Kasmi, et ce matin, la ministre de l'Éducation ouvrira un colloque dédié au sujet de la laïcité à l'école à 9h. Il y a moins de 3 semaines, il évoquait la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, provoquant notamment un sévère mécontentement du chancelier allemand Olaf Scholz. Mais alors qu'Emmanuel Macron doit se réunir à nouveau à Berlin avec son homologue allemand aujourd'hui, en compagnie du Premier ministre polonais Donald Tusk, le président français a nuancé ses propos tout en restant sur sa ligne. Hier, il accordait un entretien à TF1 et France 2 sur le sujet, 40 minutes pour expliquer aux Français les enjeux de la guerre qui se poursuit aux frontières de l'Europe et qui menace, selon lui, nos démocraties. Le compte rendu avec Nathanaël Charbonnier.
Ce n'est pas encore un faucon, mais le ton employé par le président français n'a plus rien à voir avec celui qu'il utilisait au début du conflit. Durant son intervention, il s'est présenté comme le garant de la sécurité des Français, mais aussi de leur défense. Il a surtout expliqué pourquoi il est inconcevable de laisser la Russie l'emporter en Ukraine.
Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Nous n'aurons plus de sécurité en Europe.
Emmanuel Macron, défenseur de l'Europe, alors que la situation se détériore, aussi bien pour les Français qui voient les prix flamber et les attaques informatiques exploser, que pour les Ukrainiens qui voient leur armée en difficulté.
Le contexte sur le terrain ukrainien change. Je vous le dis avec la plus grande solennité, ce début d'année 2024 doit être pour nous celui du sursaut.
Un sursaut qui passe par la production d'armement, par le recours à l'emprunt si nécessaire pour financer cette guerre et par la mobilisation de notre armée pour répondre à toute escalade russe.
Jamais nous ne mènerons d'offensive. La France est une force de paix. Simplement aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible.
Et Emmanuel Macron de rappeler que la guerre en Ukraine se déroule à seulement 1500 kilomètres de Strasbourg.
Strasbourg où se tient le Parlement européen une partie de l'année et où les eurodéputés remettent en jeu leur mandat dans près de 3 mois. Et pour cette campagne européenne, c'est encore la situation ukrainienne qui polarise les débats. En témoigne hier le tout premier débat télévisé sur la chaîne publique Sénat, réunissant les principaux candidats français, tête de liste pour ces européennes, Manon Aubry de la France Insoumise, François-Xavier Bellamy des Républicains, Léon Defontaine du Parti communiste, Raphaël Glucksmann pour le PS, Valérie Ayé pour Renaissance, Marion Maréchal pour Reconquête et Marie Toussaint pour les écologistes. Quant à Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement National, il avait décliné l'invitation et s'est fait représenter par Thierry Mariani, très attaqué sur sa russophilie présumée. Il y fut donc question d'Ukraine et de la position de l'Europe face à la Russie. L'analyse de Bruno Cotres, chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Il est interrogé par Sophie Delpont.
Il ressort des éléments de différenciation très importants sur un certain nombre de sujets, bien évidemment la question de l'immigration, mais surtout la question de la guerre en Ukraine et de la question de la sécurité et de la défense européenne qui ont été sans aucun doute les moments les plus importants, même si à la fin il y a eu le thème de l'énergie, du pouvoir d'achat, mais voilà, on a vu en particulier sur le thème de la guerre en Ukraine et plus généralement sur le thème de la défense et de la sécurité européenne, des éléments de défense extrêmement importants apparaître. D'un côté, on va dire ceux qui sont sur le soutien à l'Ukraine et qui voient au-delà du soutien à l'Ukraine la question plus générale de la sécurité européenne et de la défense d'un certain nombre de valeurs, et ceux qui sont plutôt sur l'idée qu'il faut davantage de neutralité de la France, voire de l'Europe. C'est qu'on voit qu'à travers la question de la Russie, à travers la question de l'Ukraine, il y a une dimension de notre vie politique qui prend de l'importance de plus en plus, qui est le lien entre notre sécurité nationale et la sécurité européenne. Et donc c'est une progressive et lente intégration des questions européennes dans notre débat national auquel on va assister au cours de cette campagne.
La proposition de loi revenant sur le cumul des mandats a été empêchée au dernier moment à l'Assemblée nationale hier soir après une séance houleuse. C'est le groupe Horizon qui avait inscrit ce texte au menu de sa journée réservée. Il a dénoncé une obstruction de la gauche après que celle-ci a ralenti les débats jusqu'à minuit par des sous-amendements, rappels au règlement et autres demandes de suspension de séance. Le texte visait à assouplir la loi de 2014 adoptée sous François Hollande qui interdit d'être à la fois parlementaire national et titulaire d'un mandat exécutif local.
7h09 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Au Sénégal, la situation politique semble se détendre à mesure que les jours passent.
Après avoir obtenu une nouvelle date pour les élections présidentielles et une amnistie pour les opposants sénégalais, l'opposant principal justement du président Macky Sall, Ousmane Sonko, est sorti de prison hier soir, 10 jours avant le scrutin. Sa libération avec celle de son bras droit et candidat à la présidentielle, le Bassirou Diomaye Faye, a été accueillie par des scènes de liesse à Dakar. On y reviendra dans le journal de 8h. Au moins 20 personnes ont été tuées cette nuit par des tirs à un point de distribution d'aide dans le nord de la bande de Gaza. C'est ce qu'annonce en tout cas le ministère de la Santé du Hamas, alors qu'un premier navire chargé de vivres est attendu dans l'enclave au bord de la famine. 13 ans d'une guerre civile dont les médias se sont peu à peu détournés. Le 15 mars 2011, en Syrie, débutait une révolte contre le régime de Bachar al-Assad. Dans le sillage des printemps arabes, des centaines de milliers de Syriens descendaient dans les rues pour demander la fin de la dictature. Mais rapidement, les manifestations pacifiques étaient réprimées dans le sang. Et ce qui était un soulèvement populaire devenait une guerre civile qui, 13 ans plus tard, est toujours en cours et a laissé la Syrie exsangue. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le bilan est de plus de 500 000 morts et Bachar al-Assad est toujours à la tête du pays. Notre correspondant dans la région, Noé Pignède.
Après 13 ans de guerre civile, la Syrie continue de se déchirer en silence. Les affrontements entre le régime soutenu par la Russie et les rebelles sont devenus plus sporadiques, certes. La ligne de front est gelée au nord-ouest du pays, mais les habitants de la province d'Idlib, dernière enclave qui résiste toujours à Bachar al-Assad, sont encore très régulièrement bombardés. La guerre a fait 4000 morts de plus en un an, des victimes qui viennent s'ajouter aux demi-millions de morts recensés depuis 2011. Selon l'ONU, le conflit syrien a aussi fait plus de 100 000 disparus, assassinés ou toujours torturés dans les prisons du régime. C'est cette répression sanglante, mais aussi le soutien militaire de la Russie et de l'Iran qui ont permis à Bachar al-Assad de se maintenir au pouvoir. Mais il est aujourd'hui à la tête d'un pays en ruine. 90% des Syriens vivent sous le seuil de pauvreté et l'aide humanitaire est en chute libre. Le programme alimentaire mondial a même été contraint d'arrêter ses distributions de nourriture faute de financement. La famine menace et le pays continue de se vider de ses habitants. Épuisés, beaucoup de Syriens tentent toujours de prendre la mer pour rejoindre l'Europe au péril de leur vie.
La Russie, on l'entendait, qui soutient la Syrie et cela devrait continuer tant il paraît évident que l'élection présidentielle qui commence ce vendredi en Russie devrait reconduire Vladimir Poutine à la tête du Kremlin. 114 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Il n'y a que 4 candidats cette année, c'est exceptionnellement peu. Toutes les candidatures des véritables opposants ont été éliminées. Quant aux 3 qui se présentent, ils n'ont d'opposants que le nom. Le scrutin, en outre, est totalement verrouillé. Alors, faute de pouvoir s'exprimer dans les urnes, l'opposition a imaginé une opération qui doit se tenir dimanche et qui s'appelle Midi contre Poutine. A priori anecdotique, elle a tout de même provoqué la réaction du Kremlin. À Moscou, Sylvain Tronchet.
Midi contre Poutine, à l'origine, c'est une idée lancée par un ancien conseiller d'opposition de Saint-Pétersbourg, puis relayée par...
Привет. Это Юлия Навальная.
Алексей Навальный, puis maintenant sa veuve Yulia, qui appelle donc les Russes à aller voter dimanche à midi. L'idée est que de grandes files d'attente se forment devant les bureaux de vote, synonyme de protestation.
À midi, le 17 mars, nous pouvons venir nous compter et voir que nous sommes nombreux et forts.
Et мы сильные.
Une façon de protester sûr et sans danger, affirme l'opposition à Vladimir Poutine, mais qui n'est pas du goût des autorités russes, qui tentent de l'entraver, comme nous l'a raconté Anastasia, une moscovite qui travaille dans une administration.
Nous sommes obligés de voter à certaines heures, dans certains lieux. Moi, je serai obligée de voter le premier jour. Donc non, je ne pourrai pas suivre les conseils de l'opposition.
Anastasia devra présenter son récépissé de vote lundi au travail. Et puis le parquet général russe a lancé un avertissement hier en affirmant qu'il voyait des signes d'extrémisme derrière cette opération, que des poursuites pourraient avoir lieu. Dans certaines universités, les étudiants ont été prévenus qu'ils seraient exclus si on les voyait voter dimanche aux alentours de midi.
Sylvain Tronchet, puis notez que le dossier du 8.45 tout à l'heure sera consacré à la fraude électorale en Russie, une vieille tradition. Le temps de ce vendredi en France, à nouveau instable et perturbé, les températures restent douces. Sur un tiers sud, le ciel sera plus calme et ensoleillé. Comptez ce matin de 3 à 8 degrés du centre-est au nord de PACA, 8 à 11 ailleurs. Il fera cet après-midi de 13 à 17 degrés, 18 à 21 dans le midi. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume.
Écoutez, merci beaucoup, Anne-Laure Chouin. Avec dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. Peut-on se fier à l'hypnose ? Je ne comprends pas du tout pourquoi Marguerite se pose cette question.